Oh notre Dieu, nous te remercions parce que nous savons bien que nous ne sommes que de passage sur la terre et qu'il n'y a pas d'espérance pour nous de demeurer toujours ici-bas. Mais ce qui réjouit nos cœurs, c'est de penser que nous ne sommes pas destinés simplement à la tombe et aux humiliations du sépulcre. Nous savons que avant même que la mort nous atteigne, tu peux être revenu, parce qu'il y a une génération qui ne connaîtra pas la mort, comme Enoch n'a pas connu la mort, mais a été enlevé. Et nous pouvons penser aussi que nous pouvons être dans cette génération, puisqu'il y en aura une, et que tu as dit, soyez prêts, vous ne savez ni le jour ni l'heure. Eh bien, nous voulons être de ceux qui attendent Jésus aujourd'hui, afin que nous ne soyons pas surpris à sa venue, et que vraiment nous soyons trouvés parlant des choses qui glorifient notre Dieu quand il viendra, que nous soyons trouvés dans un lieu où nous n'aurons pas honte d'être surpris, que ta grâce nous enseigne à vivre dans la génération présente, dans la pureté, dans l'honnêteté et selon tes pensées. Bénis-nous dans cette avant-dernière réunion d'études bibliques. Éclaire-nous et passionne-nous pour cette merveilleuse parole. Donne-nous le goût de la lire, même quand nous serons hors du camp, et fais ton œuvre en chacun de nous pour qu'elle soit parfaite au jour où tu reviendras. C'est notre cri, c'est notre prière, c'est notre certitude, car tu veux nous exaucer aujourd'hui. En Jésus. Amen. Nous voici arrivés au jeudi matin 13 juillet, et dans ce camp de Dieu, nous rappelons l'ordre de Jésus ressuscité à ses disciples. Vous serez mes témoins. Et nous avons considéré le livre des Actes comme étant la toile de fond qui peut donner une force biblique à tout ce que nous vous enseignons. Ce matin, nous aurons les chapitres 25 et 26 du livre des Actes, qui a donc comme auteur Luc, qui veut dire lumineux, et nous rappelons qu'il écrivait à qui? Comment s'appelait-il celui qui recevait ce livre? Théophile. Et que veut dire Théophile? Aimé de Dieu. Et nous vous avons dit que nous étions tous des aimés de Dieu. Donc nous sommes tous, en quelque sorte, des théophiles. De sorte que ce livre des Actes, nous le recevons comme s'il était écrit pour chacun de nous. C'est comme cela que vous aurez une bénédiction particulière. Ne lisez pas ce livre en vous disant, « Oh bien, ce n'est pas pour moi. » C'est pour vous qu'il a été écrit comme si vous étiez seul à exister sur la terre. Alors, hier soir, avec la comparution de Paul devant le Sanhédrin, nous avons rappelé comment Pierre et Jean avaient dû témoigner à deux reprises devant les mêmes autorités et comment ils avaient pour eux-mêmes vérifié les paroles qu'avait dites Jésus. Vous vous souvenez, quand il enseignait dans l'évangile de Matthieu, nous trouvions cette parole. Il disait à ses disciples qu'il allait envoyer pour évangéliser, il leur disait qu'ils ne seraient pas reçus, qu'on les arrêterait, qu'on les mènerait devant les tribunaux. Et il ajoutait, ne vous mettez pas en souci au sujet de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Et il avait ajouté, car ce n'est pas à vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Et on voit Pierre, qui était un illettré, qui a été saisi par l'Esprit, et devant le Sanhédrin, il a parlé avec autorité, et il a surpris tout le monde. Mais ils ont expérimenté que c'était vrai, que les paroles de l'Évangile, que les paroles que Jésus leur avait enseignées étaient réellement esprit et vie, et devenaient pour eux, maintenant que Jésus était dans la gloire, des réalités. De sorte que les hommes qui étaient là dans le Sanhédrin pour juger Pierre et Jean, ils ont reconnu que ces personnes avaient été avec Jésus. C'est le témoignage que le Sanhédrin a pu donner. On les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. Quand on a été avec Jésus, eh bien, on a certains principes, on a une certaine attitude, une certaine tenue et certaines paroles aussi. Et nous nous sommes souvenus également qu'Étienne, dans sa comparution devant le même tribunal, avait eu une attitude extraordinaire, de telle manière que tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les regards fixés sur Étienne. Hein, et ils l'ont vu illuminé. Son visage était resplendissant comme celui d'un ange. Pourquoi ? Parce qu'Étienne ne regardait pas ses accusateurs. Étienne ne regardait pas ses ennemis, mais qui regardait-il ? Il regardait Jésus. Et dans toutes nos situations, comprenez bien ça, dans toutes vos situations, quelles qu'elles soient, vous avez une difficulté, alors ne perdez pas courage, regardez tout de suite à Jésus. Fixez vos yeux sur Jésus. Vous n'aurez pas besoin de l'un ou de l'autre pour vous aider. Jésus est Jésus seul. Sur la montagne de la Transfiguration, il est dit que les disciples ne voyaient plus personne que Jésus seul. Et quand ils se sont prosternés, ils ont entendu la voix du Père qui disait « C'est lui, mon fils élu, écoutez-le. » Alors, vous regardez Jésus, et puis votre oreille, l'oreille de votre cœur est tout de suite ouverte, et vous recevrez personnellement et directement la réponse dont vous avez besoin pour vous sortir de la difficulté. Ce sera une parole que l'Esprit vous rappellera, parce qu'il est dit que le Saint-Esprit devient la mémoire du chrétien, et ces paroles deviennent une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Alors souvenez-vous bien de cela, l'attitude d'Étienne. Étienne ne regardait pas ses ennemis, mais il regardait Jésus. Et quand on regarde Jésus, notre visage ne se couvre pas de honte. C'est le psaume 34, verset 6. Mais pour Paul, à qui nous revenons, lorsqu'il fut placé par le tribun romain au milieu de ces gens du Sanhédrin, qu'est-ce que nous avons constaté? Il avait les yeux fixés sur eux, sur le Sanhédrin, hein, sur ses juges. Et ces juges ont vu en lui tout de suite un homme sûr de lui, sûr de son droit, sûr de sa justice. Et ça, ils ont réagi. Ce qui était, c'était juste, il était dans son droit, l'apôtre Paul. Mais enfin, son attitude a provoqué cette réaction fausse d'Ananias, le souverain sacrificateur, qui a commandé à quelqu'un près de Paul de le frapper sur la bouche, hein, ce qu'il n'avait pas le droit de faire. Un juge ne fait pas une chose comme ça. Mais vous voyez, alors, la réaction de Paul, c'est un peu œil pour œil, dent pour dent. Hein. parce que il est nerveux et il regarde, il voit cet homme, il réalise pas que c'est le souverain sacrificateur, mais il voit qu'il y a du blanc devant lui là. Dieu te frappera, paroi blanchie. Mais quand on regarde nos ennemis, on reflète leur image et on entend mal, je dirais ça, on entend mal, puis on ne voit pas loin. C'est ce qui est arrivé à Paul. Et vous allez voir les progrès qu'il a fait hein, après. Alors le souverain sacrificateur ayant ordonné qu'on le frappe sur la bouche, après sa première parole, il n'avait donné qu'une parole, hein. Paul l'a donc appelé paroi blanchie, et il se fait reprendre par ceux qui étaient près de lui. Et j'ai rappelé que Jésus avait prononcé des paroles très dures pour les chefs de son peuple la semaine où il a été livré dans Matthieu chapitre 23, et on a souligné les mots qu'il employait. Hypocrite, aveugle, fou, race de vipère, serpent, et même sépulcre blanchi. Parce que vous savez, un sépulcre blanchi, on mettait de la chaux hein, sur les sépulcres à Jérusalem, et alors ça faisait des sépulcres très blancs. Hein. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y avait? De la pourriture. Hein. Alors, nous ne devons pas être un sépulcre blanchi. Il doit y avoir la vie en nous, et non pas la mort. On ne doit pas avoir seulement une belle apparence extérieure, on doit avoir la vie en nous. Mais on ne peut pas employer n'importe quelle parole que Jésus a employée, nous ne pouvons pas les employer pour juger les autres. Alors les premières paroles prononcées par Paul au Sanhédrin sont celles, je dirais, d'un homme de bonne foi, qui n'a rien sur la conscience, c'était vrai, et qui en appelle à la conscience de ceux qui vont le juger. La réponse immédiate qu'il a reçue d'Ananias est un outrage de la part du juge et du chef du Sanhédrin. Les réactions de Paul, je dirais, étaient justes. Elles étaient à leur place vis-à-vis des hommes. Hein. Il était dans son droit. Mais ça, c'est vis-à-vis des hommes. Mais le Saint-Esprit ne pouvait pas dire « je ne savais pas ». Ça, c'est pas possible. Donc là, vous voyez que Paul n'a pas parlé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas dire « je ne savais pas ». Si c'est le Saint-Esprit qui parle en vous, il sait ce qu'il dit, il sait la situation. C'est pourquoi nous avons parlé des grands hommes de Dieu qui sont quand même des hommes aux mêmes passions que nous. Alors, l'apôtre Paul était dans son droit vis-à-vis des hommes, mais il avait tort parce que c'était Dieu lui-même qui voulait le défendre. L'apôtre, quand il s'est trouvé devant eux, il n'a pas parlé pour Dieu. Il a parlé pour lui. Et c'est toujours ce qui nous arrive. Quand nous voulons prendre nous-mêmes en main notre défense et que nous voulons parler pour nous, ça va mal. Laissez à Dieu votre défense. Paul, devant le tribunal, a parlé pour lui. C'était juste ce qu'il disait, mais il n'a pas parlé pour Dieu. Or, si nous sommes devant les tribunaux, c'est pour Dieu que nous y sommes. Et il a fait une seconde erreur. Il a profité, comme on l'a vu ensuite, de la composition du Sanhédrin pour y jeter le désordre complet. Hein. Il y avait dans le Sanhédrin des pharisiens et des sadducéens. Et Paul a immédiatement vu qu'il pouvait, au fond, jeter le trouble et la division parmi ses juges. Et il s'est écrié, ce qui était vrai aussi, « Je suis pharisien. Je suis fils de pharisien. » Mais ça, c'était des moyens charnels. Et moi, je veux prendre cela pour moi, pour que jamais, si je suis dans cette situation, j'essaye de me défendre moi-même, même quand j'ai raison. C'est le Seigneur qui doit avoir raison. Et si je suis dans une situation délicate, le Seigneur le sait, et j'y suis aussi pour le Seigneur. Nous parlons, disait Paul plus tard, devant Dieu en Christ. Alors, tout ce que Paul a fait, c'est de créer quoi? La confusion et le tumulte. Quand on m'a demandé plusieurs fois d'aller parler dans une église romaine, j'aurais pu faire un truc comme ça et semer la confusion, mais j'aurais pas pu leur parler du Seigneur. Il fallait que je dépende du Saint-Esprit pour apporter un message qui me permette d'arriver à la fin de l'heure en édifiant les âmes. Mais il y a une manière de contester, il y a une manière de parler qui trouble et qui amène l'auditoire à des discussions, à des parties. Je savais très bien qu'il y en a qui seraient favorables à ce que je dirais, et puis d'autres qui désapprouveraient, et alors qui se dresseraient les uns contre les autres. Tout cela nous est enseigné par ce livre des Actes. Donc, ce n'est pas une simple histoire de Paul, c'est quelque chose qui me concerne et que j'ai à apprendre. Alors, le tribun doit intervenir, c'est ce que nous avons vu hier soir, et il enlève Paul, qui ne peut plus parler du Seigneur devant le Sanhédrin. L'occasion est perdue. Il a eu une occasion merveilleuse de parler au peuple des degrés de la forteresse, mais dans le Sanhédrin, c'est un fiasco. Alors, immédiatement après, les Juifs prépare un complot. Ils n'ont pas pu avoir Paul dans le Sanhédrin, alors ils préparent ce complot, comme nous l'avons vu. Mais il est déjoué, et Paul, finalement, se retrouve à Césarée, mais il ne reviendra plus à Jérusalem. Et c'est cela que nous devons voir toujours. Voyez-vous, j'ai dit toujours que c'était le dernier camp, hein, année après année, parce que c'est vrai, cela, que ça peut être le dernier. Alors, il nous faut toujours se dire, il n'y aura pas une autre occasion. C'est aujourd'hui le temps favorable, c'est aujourd'hui le jour du salut. Nous ne voulons pas être, comme on l'a vu hier soir, des Félix qui disent, je t'écouterai à une autre occasion. Il y aura une autre fois, parce qu'il n'y a pas eu d'autre fois pour Félix. Et c'est cela qui doit nous guider et nous dire, eh bien, aujourd'hui, je prêche encore, mais c'est peut-être la dernière fois. Je ne peux pas même me promettre demain, parce que on ne sait ni qui vit ni qui meurt, on ne sait pas ce qui peut nous arriver d'ici à demain. Alors, c'est aujourd'hui que nous devons donner le plus possible. Donc, nous avons vu comment l'apôtre a été conduit de nuit jusqu'à Césarée, avec des gardes importantes. Mais ce qui m'a encore frappé, c'est que Paul a dû se rendre compte, puis du reste on le voit plus tard, parce qu'il a agi d'une autre manière. On apprend par nos échecs. Hein. Faut pas se décourager si on a eu un échec. Et il faut pas se décourager si on a eu une faute. On reconnaît notre faute. Hein. Et puis, on s'en humilie, mais si on commence une dépression, hein, dire ben c'est fini, le Seigneur ne voudra plus rien faire avec moi, on n'est pas dans le sentier du Seigneur. Et vous voyez la grâce de Dieu. Immédiatement, pendant qu'il était encore à Jérusalem, alors qu'il aurait pu être déprimé, qu'un complot se tramait contre lui, le Seigneur lui apparaît. Hein. et puis lui dit de prendre courage, c'est quelque chose de merveilleux. Nous avons lu ce verset dans le 23-11, oui. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul, donc après cette histoire du Sanhédrin, et lui dit, prends courage, parce qu'il aurait pu être découragé. Et vous savez, quand on a eu une faute comme serviteur de Dieu, comme homme de Dieu, on peut être découragé. Et ça arrive parce que Satan nous attaque en piqué, et ce sont tous les dards enflammés du malin qui sont décochés. Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Il a la confirmation que son ministère n'est pas fini, même s'il n'a pas été là à la hauteur pour parler pour Dieu à Jérusalem. Tu iras quand même à Rome. Et alors nous les avons vus arriver à Césarée, et ils comparaient devant ce gouverneur romain, Félix. Et Félix fait donc venir le sacrificateur Ananias avec le fameux avocat Tertulle, vous vous souvenez de cela? Je vous le rappelle pour que tout soit bien en mémoire dans la suite. Et puis, après que Tertulle ait flatté Félix et ait apporté l'accusation des Juifs contre Paul, on a donné la parole à Paul. Et Paul, sachant que Félix était bien averti au sujet de la voix du Nazaréen, eh bien, il est à l'aise pour raconter les faits, ce qui s'est passé, et il termine sa défense en disant que, au fond, il est accusé, pour quelle raison? Pourquoi est-ce qu'il est accusé? Il dit, verset 14, « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, si on veut me reprocher quelque chose, je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. » Est-ce que c'est ça notre cas? Est-ce que nous croyons tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes comme étant inspiré de Dieu? Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, vous voyez, ils soulignent les points d'accord, qu'il y a une résurrection des justes et des injustes. C'est donc pourquoi ils s'efforcent d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Et puis, au verset 21, il dit, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Et alors on apprend que Félix était parfaitement au courant de ce qui concernait cette doctrine. Pour quelle raison est-ce qu'il était au courant? Parce que sa femme était juive. Et il était quand même très intéressé par ces choses. Mais il a simplement ajourné l'affaire en disant, eh bien, voilà, quand Lysias, le tribun, descendra, on reprendra toute l'affaire. Puis quelques jours après, avec Drusille, sa femme, qui était juive, ils ont fait appeler Paul pour qu'il leur parle de la foi au Christ. Mais Paul, dans ces occasions-là, il ne biaisait pas, il a dit la vérité, comme Moïse disait la vérité au Pharaon, il la lui a dit en parlant en trois points de la justice, de la tempérance et du jugement à venir. Paul s'est donc adressé à la conscience de Félix et de Drusille. Et alors là, Félix a dit, pour le moment, retire-toi. Quand je trouverai l'occasion, je te rappellerai. Mais qu'est-ce qu'il espérait? On l'a vu, c'est toujours la même question, de recevoir de l'argent d'une manière ou d'une autre. Et il l'envoyait fréquemment chercher pour s'entretenir avec lui. Et ça a duré combien de temps, ça? 2 ans. 2 ans. Et quand il a dû quitter son poste, parce qu'il était remplacé par un autre gouverneur, Porcius Festus, dans le désir de plaire aux Juifs, c'est toujours la même chose. Le désir de plaire, la servilité, il a laissé Paul en prison. Et pourtant, il était convaincu qu'il était innocent. Bien, voilà la justice des hommes. Et le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ça a été le cas de Jésus. Alors, vous voyez que Paul n'est pas épargné, et il le sait. Alors, nous entrons maintenant de plein pied dans notre chapitre 25. Donc, Festus est le nouveau gouverneur. Festus étant arrivé dans la province, il monta 3 jours après de Césarée à Jérusalem, parce qu'il veut savoir les choses. Et là, les principaux sacrificateurs, vous suivez dans votre Bible, hein, d'entre les Juifs, lui portèrent plainte contre Paul. Vous voyez qu'ils n'ont pas oublié, hein, et ils veulent sa peau. Ils firent des instances auprès de lui, dans des vues hostiles, puisqu'ils n'ont pas réussi à le tuer de la forteresse au Sanhédrin, comme ils l'avaient pensé, puisque Lysias a déjoué leur plan en faisant partir Paul de nuit à Césarée. Ils lui demandèrent comme une faveur qu'il fasse venir à Jérusalem l'apôtre Paul. Hein. Ben maintenant, fais-le remonter maintenant. C'est un nouveau gouverneur. Et un nouveau gouverneur, il est tout prêt à faire un geste. Alors on profite de cette situation. Et il préparait un guet-apens. Hein. Je pense que ces hommes qui avaient prononcé un serment d'exécration, ils avaient quand même mangé, hein, quitte à être maudits, parce que quand on avait faim, un vœu, on devait le tenir. Mais enfin, ils n'étaient pas morts. En tout cas, la méchanceté était toujours là, et on prépare un nouveau guet-apens pour le tuer en chemin. C'est exactement ce qui se passe au Moyen-Orient maintenant. Festus répondit que Paul était gardé à Césarée et que lui-même devait partir sous peu. Que les principaux d'entre vous descendent avec moi, dit-il, et s'il y a quelque chose de coupable en cet homme, qu'il l'accuse. C'est la responsabilité du gouverneur de parler ainsi. Festus ne passa que 8 à 10 jours parmi eux, puis il descendit à Césarée. Le lendemain, siégeant au tribunal, il donna l'ordre qu'on amène Paul. Et quand il fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en état de prouver. Quand on accuse quelqu'un, il faut pouvoir le prouver. Ne recevez jamais une accusation contre quelqu'un si on ne peut pas prouver la chose. Et celui qui accuse, dites-lui, on va aller trouver la personne que tu accuses. C'est le meilleur moyen de faire taire et de couper net ces accusations. Alors, Paul entreprit sa défense en disant, « Je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre le Temple, ni contre César. Hein, » c'est clair. Festus, mais voilà, c'est encore un homme qui vient de commencer son office de gouverneur. Festus, désirant plaire aux Juifs, répondit à Paul, « Veux-tu monter à Jérusalem pour y être jugé sur ces choses en ma présence ?» Il veut bien aller encore avec lui à Jérusalem. Paul dit, « C'est devant le tribunal de César que je comparais. Je n'ai pas besoin d'aller à Jérusalem. Je suis à Césarée, c'est le tribunal de César. Eh bien, c'est devant le tribunal de César que je comparais. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. Si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, Je ne refuse pas de mourir. C'est cela qui doit toujours nous habiter. Si nous avons manqué, si nous avons péché, nous ne refusons pas de mourir. Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. Puis qu'est-ce qu'il a dit là? Une phrase qui allait être lourde de conséquences. J'en appelle à César. Et quand vous en aviez appelé à César, eh bien, c'est à Rome qu'on vous envoyait. De sorte qu'il n'était plus question d'être jugé à Jérusalem. Alors Festus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit, « Tu en as appelé à César, tu iras devant César. » Et pour quelle raison? Parce que Paul était un Romain. Non, il sera jugé par les Romains. Mais dans les plans de Dieu, ce serait pour l'apôtre Paul une occasion de témoigner jusque devant Néron, le grand persécuteur des chrétiens. Verset 13. Quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. C'est un nouveau gouverneur, alors les convenances politiques obligent de venir lui présenter, enfin, ses hommages, leurs hommages. Et c'est le roi Agrippa. Qui vit avec qui? Qui est Bérénice? C'est sa sœur, qui est elle-même la sœur de qui? De Drusille. Hein? Agrippa, Bérénice et Drusille étaient frères et sœurs. Et cet Agrippa vivait avec sa sœur qu'il avait prise comme femme. Il l'avait volée à un autre, sa sœur qui était mariée, et il l'a prise comme femme. Voilà les mœurs que vous aviez dans ce temps-là. Et Drusille était donc la sœur de Bérénice. Elle aussi était divorcée et séparée, et Félix l'avait aussi volée, en quelque sorte. Bon. Alors vous voyez, c'était des drôles de gens. Mais ces trois enfants, Agrippa, Bérénice et Drusille, ils étaient les enfants de qui? D'Hérode numéro 3. Et qui était Hérode numéro 3? C'était ce sanguinaire qui avait fait tuer Jacques au chapitre 12 des Actes et qui voulait aussi faire tuer Pierre. Alors, mais c'est Agrippa III qui était donc un sanguinaire et qui est mort comment? Rongé de vers. Hein? Eh bien, c'est Agrippa III était le fils d'Agrippa II qui était celui qui a fait décapiter qui? Jean-Baptiste. Et cet Agrippa II était fils d'Agrippa, d'Hérode le Grand, le premier Hérode, qui avait massacré qui? Tous les enfants de Bethléem. Vous voyez quelle dynastie, hein? Tous des criminels, depuis Hérode le Grand qui avait fait tuer Marianne, sa femme, et puis ensuite son fils qui fait tuer ses deux propres fils aussi, c'était des assassins toute cette bande, hein, et qui fait couper la tête à Jean-Baptiste parce qu'il vit avec qui? C'est Agrippa II. Avec une femme qui appartenait à... Non, à un autre, hein. Et Jean-Baptiste lui avait dit, il ne t'est pas permis de vivre avec cette femme. Et voilà, alors Hérodiade était furieuse contre Jean-Baptiste, et quand elle a eu l'occasion, eh bien, elle l'a fait mourir. Et Hérode, voulant plaire à Hérodiade, a fait couper la tête de Jean-Baptiste, tout en sachant que Jean-Baptiste était dans la vérité. Et c'est cet Hérode qui avait fait tuer Jean et qui s'est allié à Pilate au moment de la mort de Jésus. Donc, vous voyez, c'était une dynastie de gens absolument sanguinaires. Quatre générations. Oui, alors c'était la quatrième génération donc, devant cet Agrippa, Paul va se trouver. On en est au verset 13, hein, du chapitre 25. Quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice, maintenant vous savez que c'est la sœur du roi, arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Comme ils passèrent là plusieurs jours, Festus exposa au roi, qui était donc juif, l'affaire de Paul, et dit, « Félix a laissé prisonnier un homme contre lequel, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte en demandant sa condamnation. Je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme avant que l'inculpé ait été mis en présence de ses accusateurs et qu'il ait eu la faculté de se défendre sur les choses dont on l'accuse. Ils sont donc venus ici, et sans différer, je siégeai le lendemain au tribunal, et je donnai l'ordre qu'on amène cet homme. Les accusateurs s'étant présentés, ne lui imputèrent rien de ce que je supposais. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière, et à un certain Jésus. J'avais pris cela comme thème une fois, au 700e anniversaire de la collégiale de la ville de mon pays où je suis né, un certain Jésus. Un certain Jésus. Qu'est-ce que Jésus est pour vous? C'est un certain Jésus. Un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant. Est-ce que pour vous Jésus est vivant? Ou bien est-ce qu'il est mort? Ne sachant quel parti prend dans ce débat, qu'il n'a pas de conviction, le pauvre Festus, c'est un Romain, je lui demandai s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur ces choses. Mais Paul, en ayant appelé pour que sa cause soit réservée à la connaissance de l'empereur, j'ai ordonné qu'on le garde jusqu'à ce que je l'envoie à César. Agrippa dit à Festus, je voudrais aussi entendre cet homme. Vous voyez, il y a une curiosité, il y a un intérêt quand même. Demain, répondit Festus, tu l'entendras. Le lendemain donc, Agrippa et Bérénice vinrent en grande pompe. Vous voyez cela, l'entrée de ce roi qui vit avec sa sœur comme femme, c'est l'inceste. Ils entrèrent dans le lieu de l'audience avec les tribuns, les principaux de la ville, tout le jet-set. Hein. Sur l'ordre de Festus, Paul fut amené. Alors, on amène l'apôtre Paul devant ces gens-là. C'est pas drôle, hein. Ça, c'est pas les gens religieux de Jérusalem, hein. C'est le monde, vraiment. Alors Festus dit, roi Agrippa, et vous tous qui êtes présents avec nous, vous voyez cet homme, au sujet duquel toute la multitude des Juifs s'est adressée à moi, soit à Jérusalem, soit ici, en s'écriant qu'il ne devait plus vivre. Donc vous voyez cet homme qui est condamné au fond à mort par le public juif. Pour moi, ayant reconnu qu'il n'a rien fait qu'il mérite la mort, hein, on dirait Pilate. Et lui-même, en ayant appelé à l'empereur, j'ai résolu de le faire partir. Mais je n'ai rien de certain à écrire à l'empereur sur son compte. C'est pourquoi je l'ai fait paraître devant vous, et surtout devant toi, roi Agrippa, afin de savoir qu'écrire après qu'il aura été examiné. Car il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi on l'accuse. C'est logique, hein? Ça se tient. Alors, on arrive au chapitre 26. Agrippa, alors c'est lui qui a l'air de prendre la présidence maintenant. Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Alors, vous voyez, moi je trouve admirable, hein? Il y a combien de temps qu'il est en prison? 2 ans. 2 ans ont passé depuis qu'il a pris la parole où? À Jérusalem devant le Sanhédrin. Et où il a fait une expérience qui lui a coûté et dont il se souvient. Il a parlé légèrement contre le chef de son peuple. Il ne retombera pas dans la même faute. Et c'est cela que nous devons apprendre de toute cette histoire. Nous devons nous laisser corriger. Ne pensez pas que vous êtes des êtres infaillibles et ne croyez pas que je suis infaillible. Je suis tout prêt à reconnaître mes manquements et mes fautes et à demander à Dieu que je ne retombe pas dans les mêmes fautes. Ça suffit une fois. On n'a pas besoin de recommencer. Le Seigneur nous console à l'égard de toute notre affliction pour que nous soyons capables de consoler ceux qui sont dans quelque affliction que ce soit et que nous puissions être consolés nous-mêmes. Alors Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Il n'a pas commencé par dire « Je suis malheureux. Voilà 2 ans que, injustement, je suis en prison. » Ça aurait été vrai, ça. Mais ce n'est pas de ça qu'il va parler. Son témoignage est libéré de tout ce qui est de lui-même, d'abord. Il va donner gloire au Seigneur. Et puis, il semble oublier, parce que tout le monde sait que Agrippa et Bérénice sont frères et sœurs. Il sait qu'il parle devant des gens incestueux. Eh bien, ce n'est pas ça qu'il va souligner. « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. » Tandis que Festus ne pouvait pas entrer dans ces choses, hein, puisqu'il était romain, et il venait d'arriver dans ce pays. Tandis que Agrippa, lui, il était le roi juif, et puis il connaissait les coutumes de son peuple. Alors je te prie de m'écouter avec patience. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, alors c'est la 3e fois qu'on va lire la conversion de Paul. La première fois, Luc l'a écrit dans le chapitre 9, hein, quand Saul de Tarse allait sur le chemin de Damas. La 2e fois, c'est Paul lui-même qui en a témoigné publiquement devant la foule de Jérusalem qui était réunie et alors qu'il s'adressait à cette foule du haut des degrés de la forteresse Antonia, puis maintenant devant Agrippa. Ma vie dès les premiers temps de ma jeunesse est connue de tous les Juifs puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Donc, on peut faire une enquête. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en pharisien. Mais vous voyez, il ne dit pas « je suis pharisien ». Il dit « j'ai vécu en pharisien ». C'est tout autre chose. Hein. J'ai vécu en pharisien, parce que l'autre fois, il a dit « je suis pharisien, fils de pharisien ». Il a l'air de se mettre avec toute la bande. Or, il ne pouvait pas faire. Il l'a compris. J'ai vécu en pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Ça, c'était vrai. Et maintenant, il y a un maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement, jour et nuit. Donc, vous voyez, il n'y a aucune critique contre les Juifs. Hein. Il dit que les Juifs servent continuellement Dieu jour et nuit. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par les Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Voilà encore un bon sujet hein, qu'on peut donner comme titre d'une conférence. Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues. Je l'ai forcé à blasphémer. Donc, vous voyez, il avoue ses fautes. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, c'est-à-dire à midi, hein, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Qu'est-ce que c'était ces aiguillons ? Vous savez ce que c'est qu'un aiguillon ? C'est une pointe qui est au bout d'un bois et que le laboureur qui est derrière sa charrue avait pour exciter les bœufs, n'est-ce pas, qui tiraient la charrue. C'était là. Et alors, il y a eu comme des aiguillons dans le cœur de Saul de Tarse. Mais quels ont été peut-être les premiers aiguillons ? C'est de voir couler le sang d'Étienne. Parce que quand même, l'homme le plus dur, il est quand même impressionné de voir un jeune homme mourir en disant « Père, ne leur impute pas ce péché. Que ce péché ne leur soit pas imputé. » Étienne avait prié pour Saul de Tarse. Et qui vous dit qu'ils n'avaient, leurs regards ne s'étaient pas rencontrés? Le porteur de la parole. Nous pensons, nous, si souvent, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas permis que ce soit Étienne qui soit le porteur de l'évangile? Il était tout préparé, il était rempli du Saint-Esprit, il était rempli de la parole. Bien non. C'était Étienne. Mais là, le Seigneur, avec, il te serait dur de revinder contre les aiguillons. Il y avait eu plusieurs choses qui avaient déjà commencé à préoccuper certainement Saul de Tarse. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et c'est cela, cette révélation que Paul a eue. Quand tu persécutes, quand tu touches un croyant, c'est la personne même de Jésus que tu touches. C'est ça l'unité du corps de Christ. Christ est la tête dans le ciel, et les membres sur la terre, les croyants qui ont cru, sont les membres de son corps. Et si on touche à un membre du corps, on touche à la tête. Je suis Jésus que tu persécutes. Quand vous dites du mal d'un croyant, eh bien, c'est le Seigneur que vous atteignez. Et ça, Paul a eu cette révélation extraordinaire. C'est pourquoi c'est à lui qu'a été confiée la doctrine de l'Église. Verset 16. Le Seigneur continue. « Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin. » Vous voyez que on est bien dans « Vous serez mes témoins. » Je suis apparu pour t'établir ministre et témoin. Qui est-ce qui nous établit ministre et témoin? Une école biblique? Non, vous pouvez la faire, mais c'est le Seigneur. Des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Ça, je trouve que c'est un verset que je souligne. Quand on est au Seigneur, on n'a pas simplement eu un contact avec lui le jour de notre conversion, mais il continue de se révéler à nous. Et vous devriez reprendre maintenant tout le livre des Actes et voir comment le Seigneur est apparu à l'apôtre Paul. Est-ce que c'est vrai qu'il lui est apparu de nouveau? Il l'a vu sur le chemin de Damas, dans la gloire. Mais ensuite, à plusieurs reprises, il s'est manifesté à lui, quand il était peut-être découragé, Vous le voyez à quel moment? Vous le voyez à Corinthe. Le Seigneur lui apparaît. Vous voyez le Seigneur lui apparaître à Jérusalem, après son échec. Mais non seulement cela, il dit que le Seigneur lui a ordonné d'aller prêcher aux nations, et il cite une parole qu'il a reçue du Seigneur, et c'est une parole de l'Écriture. Puis il y a d'autres exemples, d'autres moments où nous voyons que cette parole s'est accomplie littéralement. Tu seras témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Vous devriez vous attendre à ce que le Seigneur parle à votre cœur. Mais si vous écoutez tout ce que le monde veut vous donner, il n'y a plus de place pour que le Seigneur puisse parler. Pour que le Seigneur puisse nous parler, il faut aimer le silence. Il faut aimer se tenir devant lui et se recueillir. Parce qu'il ne parle pas au milieu du bruit. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, verset 17, et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Donc, un serviteur, il est choisi par Dieu. Afin que tu leur ouvres les yeux. Donc, vous voyez, les gens sont aveugles. Et le ministère d'un serviteur, c'est d'ouvrir les yeux de ceux auxquels on parle, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Parce que quand on n'est pas au Seigneur, on se trouve sous la puissance de qui? De Satan. Et c'est ça que nous devons bien comprendre. Est-ce que vous êtes sous la puissance de Dieu ou est-ce que vous êtes encore sous la puissance de Satan? Eh bien, si vous acceptez le Seigneur, de la puissance de Satan, vous passez à la puissance de Dieu. Et pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, c'est pas par la foi en Marie, par la foi en des saints, mais par la foi en Jésus, qui lui apparaît, le pardon des péchés. Le pardon des péchés, on ne le trouve qu'en Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre, disait Pierre, il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. Et non seulement qu'on reçoive le pardon des péchés maintenant, mais il y a un héritage. L'héritage avec tous les sanctifiés, c'est-à-dire tous ceux qui ont été mis à part, qui se sont séparés pour vivre pour le Seigneur. Verset 19. Voilà le témoignage que Paul a rendu des choses qu'il avait vues et entendues. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, et dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché quoi? La repentance et la conversion. La conversion, ce n'est pas un changement de religion. La conversion, c'est un demi-tour. C'est un changement d'orientation. On allait dans une direction, on a reconnu qu'elle était fausse, et puis on se tourne vers le Seigneur. Comme les Thessaloniciens, ils s'étaient détourner des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et c'est bien ce qu'il dit. J'ai prêché la repentance et la conversion avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Il est question, n'est-ce pas, que la vraie foi, elle produit des œuvres. C'est ce qu'on voit dans Jacques. Les œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, vous voyez, il ne dit pas grâce à Lysias, hein, mais grâce au secours de Dieu, mais Dieu a employé Lysias, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Vous voyez qu'il est contrôlé. Et qu'est-ce qui le contrôle? La parole. Qu'est-ce qui doit contrôler nos messages? La parole. Et rien d'autre. Vous êtes en droit de demander à ceux qui vous prêchent où avez-vous trouvé cela dans la parole. Et si on ne peut pas vous montrer que c'est de la parole, eh bien, laissez cela de côté. Et il ajoute, verset 23, donc il ne s'est pas écarté de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait. Est-ce que c'est vrai que le Christ devait souffrir? En lisant l'Ancien Testament, les psaumes, quel psaume 22 en particulier, hein, psaume 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis Ésaïe 53, puis il y a un tas d'autres passages. Et que ressuscité, le premier d'entre les morts, c'est quel psaume ça? Psaume 16, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Et qu'est-ce qu'avait dit Siméon quand il avait vu Jésus lors de la présentation au temple? Mes yeux ont vu ton salut. Une lumière pour les nations et la gloire d'Israël. Mais en même temps, il avait averti Marie qu'une épée transpercerait son cœur. Alors, vous voyez maintenant ce que Paul a dit devant cette espèce d'aréopage. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. Il a été saisi par le grand savoir de Paul. Il est intéressé quand même. Mais il se dit, mais c'est de la folie. C'est un fanatique. Parce qu'il ne pouvait pas croire à la résurrection. Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. Je ne suis point fou, très excellent Festus. Vous voyez comme il est poli, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles sont son passé. Puis voilà, ah, moi je trouve ça admirable. Paul parlant à un homme qui vit en plein dans le péché. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Paul a un préjugé favorable. Il n'est pas négatif. Je sais que tu y crois, malgré la vie que tu mènes. Hein. Malgré la vie que tu mènes. Non, on n'est pas comme ça. Hein. Tu es un crétin. Non. Je sais que tu y crois. Il a le préjugé favorable. Et Agrippa est touché. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Donc, il avoue bien qu'on ne naît pas chrétien, mais qu'on le devient. On le devient par une nouvelle naissance. Paul répondit, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répond, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu, que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Vous voyez la largeur du cœur de Paul. Il a parlé personnellement à Agrippa. Mais immédiatement, quand Agrippa est touché, il pense à tout l'auditoire. Il ne veut pas seulement que ce soit Agrippa qui soit sauvé, mais aussi Bérénice, mais aussi tout ce monde romain, païen, qui est là. Que ce soit tôt ou que ce soit tard. Il ne dit pas, si ce n'est pas aujourd'hui, tu es perdu. Hein. Comme souvent, nous les prédicateurs, parce qu'on voudrait absolument voir du fruit tout de suite, on menace ceux qui ne se donneraient pas aujourd'hui de toutes les catastrophes possibles. Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens, parce qu'ils ne souhaitent pas qu'ils soient en prison. Mais je voudrais que vous soyez comme moi. Donc, l'apôtre Paul était, même en prison, un homme libre, quoique dans les chaînes, hein, libre et un homme heureux. Il était vraiment heureux. Et cela me fait penser à ce Chinois qui a été pendant 20 ans dans les prisons de Chine sous Mao Tse-tung, et quand il en est sorti, âgé, presque aveugle, on l'avait aussi torturé tout au monde. Un missionnaire américain, je l'ai dit dans le temps précédent, l'a rencontré, elle lui a demandé, mais qu'est-ce que ça a été pour vous, ces 20 années? Et il a répondu, ce qui m'a bouleversé, une lune de miel avec le Seigneur. Une lune de miel avec le Seigneur. Les âmes qui sont au Seigneur et qui pensent au Seigneur, eh bien, elles sont avec le Seigneur dans toutes les circonstances. Alors que nous disons, mais enfin, si Dieu est juste, pourquoi est-ce qu'il permet que de saints hommes soient dans une situation pareille? Or, ce n'est pas ces saints hommes qui se plaignent. C'est nous qui, de l'extérieur, alors que nous ne souffrons pas, avons soi-disant de la compassion pour eux, et puis sommes prêts à accuser Dieu de les faire souffrir. Ce n'est pas Dieu qui les fait souffrir. Et Dieu, dans ces circonstances-là, sait les réjouir. Alors, reprenons notre place dans l'humilité. Verset 30. Le roi, le gouverneur, Bérénice, et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent. Et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » Et Agrippa dit à Festus, « Cet homme aurait pu être relâché s'il en avait appelé à César. » Paul en avait appelé à César, alors il fallait qu'il aille jusqu'à César. Voilà, mes amis, nous avons parcouru ces chapitres et j'espère qu'ils vous auront laissé une empreinte. Demain, puisque ce soir nous n'avons pas la réunion, puisque nous aurons notre ami Noël Aubu, mais demain matin, puisque plusieurs partent déjà le soir, je ne ferai pas comme vendredi soir, nous ferons les deux chapitres demain matin et la dernière rencontre, celle de vendredi, est de toute façon consacrée à une réunion de témoignages. C'est le dernier moment que nous allons passer ensemble et ce n'est plus moi qui vous parlerai, c'est vous qui apporterez votre témoignage qui pourrait peut-être encourager l'un ou l'autre. Donc, pour demain matin, je vous invite à lire, pour votre préparation, les chapitres 27 et 28 du livre des Actes qui nous conduiront à travers la mer jusqu'à Rome, où l'apôtre Paul a été emprisonné et où il a subi le martyre, quoique le livre des Actes ne nous raconte pas son martyre, mais nous le montre en prison à Rome, ayant l'occasion de rendre témoignage. Vous serez mes témoins. Est-ce que le livre des Actes est un peu entré dans votre cœur? Eh bien, on va le continuer, nous, les Actes des Apôtres. Hein? On va être de ceux qui continuent ces actes. On va continuer. Alors, on a essayé de lire un livre entier. C'est toujours ce qui me préoccupe, c'est de vous donner le goût de la lecture biblique. Et vous avez vu, on ne dit pas des choses extraordinaires, mais on cherche à trouver par d'autres versets de l'Écriture de la lumière sur ce que nous lisons. Et alors, vous voyez qu'il y a un ensemble merveilleux. Les apôtres ont vécu ce qu'avait dit Jésus. Et puis, nous pouvons vivre aussi ce qu'ont vécu les apôtres. Ce que Jésus a été pour les apôtres, il le sera aussi pour nous. L'apôtre Pierre nous dit que nous avons reçu en partage une foi du même prix que celle des apôtres. Notre foi en 1989, a le même prix, elle n'a pas été dévaluée, elle a le même prix que la foi des apôtres. Quelqu'un a une question? Eh bien, je pense que on va prier, puis vous pourrez aller à vos occupations et... Hein? Et je voudrais vous dire, profitons et nous te bénissons pour le temps que tu nous as accordé ensemble, où les activités sportives n'ont pas entravé, nous le croyons, les questions spirituelles que nous avons eu l'occasion d'aborder en nous imprégnant de ta parole. Et nous voulons te demander que les leçons que nous a données ces actes et la vie de l'apôtre Paul, comme celle de Pierre aussi, nous soient profitables et que lorsque nous serons hors du camp, dans nos occupations quotidiennes, journalières, ce temps que nous aurons passé ici soit profitable et que dans nos foyers, il y ait des changements opérés parce que tu auras changé nos cœurs, notre vision et tu nous auras donné de mettre Jésus à la première place. Oh, que tu sois en tout le premier pour la gloire du Père. C'est ce que nous te demandons, notre Dieu, dans le nom de Jésus, qui est toujours exaucé, et par la puissance du Saint-Esprit, qui nous a gardés et qui veut nous remplir de ton amour. Amen.